Bonjour, aujourd'hui, une histoire des monastères.
Pax vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Au nom de l'ordre des bénédictins, je m'honore de vous accueillir dans notre abbaye. Il ne me reste qu'à vous souhaiter la paix.
Mille ans d'histoire. Lorsqu'il y a 17 siècles en Égypte, Saint Pacôme demanda à quelques disciples de se retirer du monde pour se consacrer exclusivement à la prière et à la mortification. Il fondait quelque part au bord du Nil la première communauté de moines de la chrétienté. Mais il ne savait pas que 6 siècles après lui, l'Europe tout entière serait couverte de monastères. En France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, en Angleterre, en Espagne et même jusqu'en Islande, les monastères étaient même devenus quelques-uns des principaux centres intellectuels et culturels de l'Occident. Mais si aujourd'hui les moines et les moniales sont beaucoup moins nombreux qu'au Moyen-Âge, les monastères continuent d'attirer de plus en plus de monde. France Inter, Alain Passerelle, le 21 août 2000.
Les Français apprécient de plus en plus les monastères ou les abbayes pour se retirer quelques jours au calme. Le reportage en Savoie de Nathalie Schwarzbaum.
À l'abbaye de Tamier, dans le massif des Bauges, en Savoie, les 28 frères trappistes reçoivent en moyenne tout au long de l'année 25 personnes pour des séjours d'une semaine au maximum. Le frère Maurice, qui vit depuis 36 ans à Tamier, est chargé de l'hôtellerie depuis un an.
Il y a tellement de demandes qu'on est obligé un petit peu de trier. Et ce qu'il faut, c'est être en recherche, venir dans un but de recherche de spirituel, d'aller un peu à la rencontre de soi-même et de Dieu. On ne demande pas un certificat de baptême ou une assiduité à la messe du dimanche pour accepter.
Marie est bretonne. Elle vient depuis une dizaine d'années à Tamier.
Je viens ici sans programme. Le repos intérieur, c'est de se laisser conduire en fait. Je dirais se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et pour quelqu'un qui ne croit pas à l'Esprit Saint, je dirais simplement laisser la vie s'écouler au fil des jours et au fil des heures.
Pierre Chavot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des religions et auteur d'un guide de la vie monastique publié chez Perrin. Comment peut-on expliquer aujourd'hui, alors que la pratique religieuse est en baisse, qu'il y ait de plus en plus de monde, c'est ce que je lis dans votre livre, pour venir faire une retraite dans des monastères? Ça paraît anachronique.
Ben oui, ça paraît, mais pourtant c'est une réalité qui prend de plus en plus d'ampleur. Le phénomène s'explique très schématiquement de deux manières. Il n'y a pas de baisse de la pratique religieuse, je dirais qu'il y a plutôt une recherche de plus en plus diffuse et de moins en moins précise. Les monastères et la seconde dimension, c'est le côté humain de l'aventure, si nous convient bien ce genre de situation. Les gens font quoi quand ils vont au monastère? Ils viennent rechercher de la paix, une sorte de rééquilibrage intérieur, fuir le bruit de la ville, une société difficile, et ensuite venir aussi, ils recherchent aussi une écoute qu'ils n'ont pas forcément dans la vie civile.
Je voudrais qu'avec vous, on revienne quand même sur l'histoire de cette institution, de ces monastères que vous rappelez au début de votre livre, Pierre Chavot. D'abord, moi j'ai découvert beaucoup de choses, c'est que c'est assez vieux, cela dit, c'est postérieur à la naissance du christianisme, c'était à peu près au 3e siècle qu'apparaissent les premiers monastères.
Voilà, alors dont on a des traces certaines, on imagine que ce qui de toute façon existait dans les milieux judéo-chrétiens des deux ou trois premiers siècles de notre ère, que des gens de toute façon, dans le sillage des ultra-juifs de l'époque de Jésus, hein, je parle notamment des Esséniens, des gens avaient besoin d'aller dans le désert, ce qui est le sens du mot ermite, se confronter encore davantage avec leur foi et rencontrer Dieu encore plus profondément. Et ensuite, homme ou femme, et ce phénomène a gagné la Haute-Égypte, où là il s'est structuré notamment...
Oui, c'est en Égypte qu'apparaissent les premiers monastères, à une époque d'ailleurs où le christianisme n'est plus persécuté, puisqu'il devient la religion officielle de Rome. On dit même que finalement ça avait entraîné tellement de conversions essentiellement opportunistes que les puristes allaient rechercher au fond leur vocation, l'exemple du Christ dans le désert. Eremos, c'est effectivement un mot grec qui veut dire désert. Et alors là, il y a deux noms importants, c'est Saint Pacôme et Saint Antoine. Pierre Chavot.
Absolument, parce que Saint Pacôme et Saint Antoine édictent ce qu'on appelle aujourd'hui une règle, bien que ce mot n'ait pas la consonance qu'on peut lui donner dans la législation, par exemple, civile. C'est quoi ? C'est un guide de conduite qui permet aux communautés de se structurer autour de principes communs, à la fois religieux et à la fois communautaires.
Parce qu'il s'agit au départ, vous le disiez, c'est assez contradictoire d'ailleurs, au départ, les premiers moines sont des ermites, c'est-à-dire des solitaires, mais comme ils entraînent des disciples avec eux, ça devient, la vie d'ermite devient une vie de cénobite, c'est-à-dire une vie en commun, se regroupe autour d'un saint fondateur, en quelque sorte, un véritable monastère.
Voilà, tout à fait. Donc ce qui va prédominer dans ces naissances de monastères, c'est aussi l'exemplarité, hein, ce qui est la base de la sainteté. Les premiers saints sont des martyrs. À partir de l'éclosion et de l'émergence du monachisme, l'exemplarité de vie de ces êtres va constituer une autre forme de sainteté. Et gagner petit à petit, déborder le cadre de l'Égypte pour remonter vers la Syrie jusqu'à la Turquie, puisque l'Occident va venir y puiser sa matière, notamment Saint Jérôme, qui est l'auteur, comme chacun sait, de la traduction latine de l'Ancien Testament.
Tout le monde ne le sait pas, mais enfin, on le sait maintenant. Bon, voilà. Et alors, ça arrive en Europe avec de très très vieux monastères. Je crois que le plus vieux, c'est Saint Martin qui l'a créé, je crois, Pierre Chavot.
Saint Martin de Tours, à Ligugé, oui, tout à fait, et qui a donc plus de 16 siècles d'existence, qui est quand même considérable compte tenu de tous les événements qui sont enchaînés depuis ce temps-là. Et celui qui arrive juste après, celui établi sur l'île de Lérins, au large de Cannes, et qui était fondé par Saint Honorat très très peu de temps après.
En 410. Voilà. Alors des monastères de plus en plus nombreux, parce que de plus en plus fréquentés, ils attirent de plus en plus de monde, malgré la rigueur de leur règlement.
J'espère que mes paroles ne vous ont pas offensé, frère Guillaume. Et j'ai entendu rire et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence.
Oui, c'est vrai. Saint-François, parfois, ne répugnait pas à rire.
Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe.
Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme.
Comme le péché. Le Christ n'a jamais ri.
En sommes-nous si sûrs?
Assez! Cette abbaye est brisée de souffrance. Et vous voulez nous détourner de notre deuil par ce vain persiflage?
Et c'était bien sûr un extrait du Nom de la Rose avec Sean Connery dans le rôle d'un moine franciscain faisant une enquête dans une abbaye bénédictine où l'on ne rit pas, hein, si l'on en croit ce que l'on vient d'entendre. En fait, au début du monachisme, il n'y avait pas de règle, ou plutôt il y avait une règle par monastère. Ils se sont multipliés, mais chacun avait son propre règlement. Pierre Chavot.
Quasiment, oui. Alors, le grand bouleversement, si on peut dire, c'est l'apparition de la règle de Saint-Benoît, donc au VIe siècle, Saint-Benoît de Nursie, qui était un grand ermite, qui ensuite a constitué cette règle qui lui est attribuée en plusieurs dizaines de chapitres, qui est une règle de conduite qui a traversé les siècles, qui finit par s'imposer donc peu après sa mort au VIe siècle et qui a été généralisée à l'ensemble des moines, des monastères d'Occident.
À partir de son abbaye qui était sur
le Mont Cassin. Voilà, ouais. Monte Cassino, qui a été donc détruite pendant la Seconde Guerre mondiale.
Reconstruite à l'identique par les Américains.
Exactement, pendant la célèbre bataille. Alors dans la règle, il dit par exemple un certain nombre de choses qu'il faut replacer aussi dans leur contexte. Il fallait absolument, parce que il faut savoir que Benoît, lui, était arrivé dans une abbaye, par exemple, où il a failli être empoisonné par les moines, parce qu'il arrivait comme un gêneur, avec une discipline, et les moines, eux, ils sonnaient les pouces toute la journée, ils profitaient de leurs revenus, et ils n'avaient pas envie d'un abbé qui vienne leur dire comment il fallait être moine. Donc il a fallu créer cette règle, et à l'intérieur de cette règle, par exemple, il dit il ne faut pas murmurer.
Le murmure. Alors le silence, hein, voilà. Y a quelques éléments de base qu'on retrouvera dans toutes les abbayes d'Europe. Le silence, effectivement. L'obéissance à l'abbé.
Absolument, le père.
Parce qu'il y a une hiérarchie. Tout de suite, elle s'établit, dès les premiers monastères, avant même qu'il y ait des règles.
Absolument, ouais. C'est-à-dire que la vie monastique, depuis son origine, repose sur trois fondements qui sont la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Mmh. Alors, il faut savoir que ces trois dimensions ne sont pas vécues par les moines de la même façon que nous les considérons dans la société civile. La chasteté pour un moine, en tout cas aujourd'hui, ça c'est une certitude au travers de tous les témoignages et de toute l'enquête que j'ai menée, n'est pas vécue comme une privation, mais comme un complément d'une foi extrêmement profonde. L'obéissance parce que c'est obéir au Père comme le Christ a obéi au Père, hein, soit à Dieu, et le travail parce qu'il faut bien manger et que...
Oui, mais ça, c'était pas évident. Apparemment, dans les tout premiers monastères fondés au 4e siècle de notre ère, le travail, c'est quand même une nouveauté qu'apporte Saint Benoît. Saint Benoît disait, l'oisiveté est l'ennemi de l'âme, hein, je crois, c'est ça. Et ça, c'est quand même assez nouveau. On se contentait de prier, je crois, dans les premiers monastères.
On travaillait aussi. Il y avait quand même cette notion, puisque dans les premières structures monastiques, architecturalement parlant, il existait des bâtiments d'œuvre, des bâtiments de travail. Donc les gens qui vivaient à l'intérieur vivaient certainement de dons, mais aussi du produit de leurs mains.
Alors tous donc suivent cette règle, en tout cas au début de Saint Benoît, d'autant plus que le pape Grégoire le Grand l'impose à toutes les abbayes de la chrétienté. Il y aura même un empereur, le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, qui va imposer lui aussi cette règle de Saint Benoît, qui va faire des monastères d'Europe les plus grands centres culturels du monde.
Attends, tu t'imagines? Nous sommes dans une des plus grandes bibliothèques de toute la chrétienté. Le Beatus de Liban. Ceci est une pure merveille. C'est la version commentée par Humbertus de Bologne. Combien d'autres salles? Combien d'autres livres?
Quel était l'écritoire du traducteur de grec?
Celui-ci.
Tant de scribes, tant de copistes, de traducteurs, de penseurs, de chercheurs, pour laquelle cette abbaye est réputée.
Et vous entendez Catholi Corum Concio, un chant mystique des abbayes cisterciennes par l'ensemble Venance Fortuna. Alors c'était un autre extrait qu'on a entendu du Nom de la Rose. Pierre Chavaud, la découverte de la bibliothèque d'un monastère qui avait, ces monastères, pratiquement le monopole de la culture en Occident. Les abbayes étaient les plus importantes bibliothèques d'Occident au Moyen-Âge.
Absolument. Pourquoi? Parce que le travail manuel est fondamental, mais le travail intellectuel l'est tout autant. Depuis Benoît, et ce qui a permis aux moines d'être des véhicules de savoir, donc les célèbres copistes qui ont permis...
Qui était un travail manuel d'ailleurs aussi.
Absolument, qui était aussi un travail manuel, et le tout étant lié, parce que la notion de travail de toute façon est toujours reliée à Dieu, où qu'on se trouve. Et donc les moines ont constitué comme ça des bibliothèques splendides, des véritables trésors sur papier ou parchemin, et qui ont traversé les siècles jusqu'à la Révolution française.
Alors autre fonction des monastères, qui était leur rôle économique dans de grands domaines agricoles, obtenu d'ailleurs par le défrichement. Les forêts d'Europe ont été défrichées par les moines, Pierre Chavaud.
En partie, ils ne sont pas les... contrairement à ce qu'on pouvait dire encore il y a une vingtaine d'années, ils sont parmi les grands défricheurs des campagnes et des forêts européennes. Mais ils ont constitué aussi comme ça, et puis aussi dans d'autres domaines, notamment l'industrie, la forge, la verrerie, des avancées technologiques considérables, et en agriculture. Et ils se sont constitués aussi des domaines très vastes, qui leur étaient aussi une très très importante source de revenus.
Mais alors justement, source de revenus avec des activités qui peuvent surprendre, par exemple la viticulture. Tous les grands crus français provenaient autrefois des monastères. Pourquoi cette passion pour le vin, Pierre Chavaud?
D'abord parce qu'il fallait le vin de messe, tout simplement.
Oui, mais enfin quand même, là il y avait des quantités, hein, il y avait de quoi faire pas mal de messes.
Oui, parce que c'était aussi un moyen de faire du commerce, et qu'il y a beaucoup de vignes qui se sont constituées à partir de cette motivation, et que le commerce fait aussi partie du travail. Comme aujourd'hui, les moines sont toujours des commerçants et des travailleurs manuels.
Et ils buvaient pas mal de vin, il faut rappeler qu'il était coupé, tout le monde en buvait parce qu'il était moins dangereux que de l'eau.
Hein. Exactement.
À l'époque, en tout cas. Il y avait aussi de la bière, bien sûr. Il y avait également l'élevage laitier. Autre grande activité, d'ailleurs, les fromages.
Absolument. Alors ça, c'est vraiment le gros... Les moines ont toujours été des producteurs de fromage. Et d'ailleurs, dans les quelques 32 ou 33 AOC qu'on trouve en France, une majorité sont des noms d'abbayes, de monastères, à commencer par le Münster. Hein, donc le Saint-Nectaire vient d'une abbaye.
Autre activité aussi surprenante, a priori, c'est l'activité activités de défense, activités militaires. La clôture des monastères, c'était souvent des remparts.
Ah, ça a été. Il y a encore debout des magnifiques exemples d'églises fortifiées qui étaient en fait des abbatiales, hein, donc des églises d'abbayes ou de monastères. Et je pense en particulier à celle de Saint-Amand de Colly dans le Périgord, en Dordogne, qui est encore superbe, hein, qui tient très très bien debout avec son plan en croix et qui était cerné de remparts et qui permettait justement aux seigneurs locaux et aux moines de résister aux invasions, notamment pendant la guerre de Cent Ans.
Des moines soldats.
Voilà, tout à fait, qui se défendaient.
Alors, d'où venait ce patrimoine quand même extraordinaire, parce que c'était vraiment les communautés les plus riches de France, les monastères.
Alors, il venait du fruit du travail, mais il venait aussi des gens qui rentraient au monastère. Alors à l'époque, c'est vrai qu'on n'y rentrait pas forcément de son plein gré, notamment les femmes, mais des hommes aussi. Hein. C'était la tradition d'avoir un enfant militaire, un garçon militaire et un garçon religieux, enfin moine ou prêtre. Et ces gens-là arrivaient de toute façon, comme il y avait de pauvreté, on cède ses biens à l'entrée au monastère. Donc c'est certain qu'il y avait des gens issus de milieux très aisés ou de l'aristocratie qui rentraient dans une communauté et qui cédaient leurs biens par la même occasion.
C'est donc l'accumulation d'un capital absolument
considérable.
Considérable, alors, qui explique peut-être une richesse, qui explique peut-être aussi les libertés de plus en plus grandes que vont prendre les monastères vis-à-vis des règles de Saint-Benoît au VIe siècle, et ce qui explique aussi une réforme assez rigoureuse de ces règles, justement, à partir du XIe siècle. Hein, c'est ce qu'on appelle la réforme cistercienne, les cisterciens.
Alors, les cisterciens sont, de toute façon, appliquent la règle de Saint-Benoît, et un noyau s'est constitué à l'abbaye de Cîteaux, donc d'où le nom de cistercien en Côte d'Or, et cette communauté a décidé de retourner au fondement de la règle de Saint-Benoît.
Parfois très rigoureux, par exemple la trappe. Les trappistes, c'est ça, hein, c'est vraiment la plus rigoureuse des applications des règles de Saint-Benoît.
Voilà la grande trappe de Soligny. À côté de ça, vous avez aussi les chartreux qui apparaissent à partir de l'an 1000 jusqu'à Saint-François d'Assise et Saint-Dominique Guzman, donc les dominicains, les franciscains, début du XIIIe siècle. Vous avez quand même un beau versement du
paysage. Mais tous qui appliquent la règle, plus ou moins strictement, la règle de Saint-Benoît. C'est pas une règle différente, les cisterciens, etc. Voilà. C'est la même règle. Alors ça, disons, on dit souvent que c'est un peu le déclin du monachisme, cette période-là, c'est le XIIIe siècle, donc des ordres mendiants, avec des critiques qui viennent, notamment qui viendront plus tard du protestantisme. Et ça a pesé aussi dans un autre événement assez tragique pour les monastères, pour les moines, c'est la Révolution française.
Absolument. Ah oui, tout à fait. Là, c'est la séparation de l'Église et de l'État de fait en 92, hein, la suppression de ce lien très étroit. Il n'y a qu'à voir à Paris, l'architecture porte encore les traces de l'implantation monastique. Saint-Jacques-la-Boucherie, qui était, le plus grand monastère de la ville, hein, on voit encore à Châtelet la tour de ce monastère. Et alors là, il y a cet éparpillement au travers de l'Europe et ensuite ce retour à partir même de Bonaparte, hein, du Concordat 1801.
Oui, mais alors avec à nouveau des difficultés. Expulsion sous la Troisième République de 20 000 moines. Mm-hmm. Alors, ils reviendront, les monastères réapparaissent, cela dit, avec beaucoup moins de moines et de moniales qu'autrefois. Combien y a-t-il de moines et de moniales en France, à peu près, Pierre Chabot?
Alors, on compte environ 5 000 moniales et 1 500 moine.
C'était une émission du 17 octobre 2005. Je rappelle que Pierre Chavot est l'auteur du Guide de la vie monastique, édité chez Perrin, et également du Dictionnaire de Dieu, édité à La Martinière. Vous avez pu entendre des extraits du Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, disponible en DVD chez Canal+ Distribution. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique, Julien Chabassu et Rémi Quincet, documentation Claire Tessert et Camille Pouc-Géraguier, une réalisation de Doria Zénine.